Hé, hey, rapido! Where is Mo?
Dans le censeur, rythme endiablé.
Yes, we can.
Se comportons pas mal!
J'aime me beurrer la biscotte.
Un pickle ring!
Ouais, c'est pas faux.
Pop culture.
Et ça, c'est sur Pulpe, votre émission de la pop culture.
Ça fait beaucoup là, non?
Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 11, il est 13h et bienvenue sur Pulpe, votre émission de pop culture. Je suis Gwenvel et je suis toujours accompagné de mes acolytes Justin et Titouan. Comment ça va les gars?
Bah écoute, ça va très bien, j'ai juste passé une nuit un peu courte à bosser sur un exposé, mais là ça va, je suis déter.
Non, moi j'ai bien dormi, ça va, je suis chaud pour aujourd'hui.
Ok, bah tant mieux parce que le sommaire est assez chargé, hein, puisque on va avoir la chronique Il s'est passé quoi présentée par moi-même, où on va parler du coup de petites actus internet que j'ai pu trouver. Et ensuite on aura la chronique manga animé, hein, présentée comme d'hab par Justin et Titouan, donc où vous allez parler de ReZero, Irregular at Magic High School et la sortie de SNK. Puis on finira sur la sortie de films et les actus de Rennes. Bien sûr, cette émission est accompagnée de musique de qualité. Et donc, nous passons tout de suite à la première chronique. Il s'est passé quoi? C'est parti. Générique.
Internet!
Comment?
Internet! Internet!
Ok, donc les gars, pour cette chronique, je vais vous parler du coup d'actu internet. Hein. Je vais commencer tout simplement par Stadia, hein, le retour du fameux Stadia, puisque Stadia dévoile une nouvelle fonctionnalité pile au moment de la sortie de ce qui pourrait être le jeu de l'année. Hein. On parle bien évidemment de Cyberpunk 2077, hein, qui est sorti hier, hein, le jeudi 10. Et donc du coup en gros dès aujourd'hui vous pouvez streamer directement sur YouTube depuis votre compte Stadia. Alors pour le moment cette fonctionnalité concerne uniquement les utilisateurs Stadia sur PC. Vous ne pouvez donc pas streamer de cette façon depuis votre smartphone compatible ou encore si vous utilisez le Chromecast Ultra. Et donc Google a consacré une page entière pour vous guider et lancer un live sur YouTube depuis Stadia. Donc voilà, maintenant on va avoir de plus en plus de live YouTube sur des personnes qui jouent sur Stadia.
Tac. Ça veut dire pas grand chose à mon avis.
Voilà. Mais bon, c'est toujours bien d'essayer. Hein.
Un jour ils vont percer.
Cyberpunk était sur Stadia.
Si, Cyberpunk est sur Stadia. Hein, sur Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Et pas Nintendo.
Ouais, bah elle pourrait pas tellement faire tourner alors... le jeu la Switch, hein, la pauvre.
Ouais, c'est clair, hein. Surtout que j'ai vu des extraits, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est magnifique. Donc sinon, nouvelle actu aussi, c'est mercredi, bien évidemment, que le mastodonte des réseaux sociaux a fait l'objet d'une plainte pour abus de position dominante et comportement anticoncurrentiel afin d'asseoir un peu plus sa position sur le marché des réseaux sociaux. Je parle bien évidemment de Facebook qui a subi une plainte, comme je vous en avais parlé il y a peut-être un mois de ça pour Google, qui avait reçu la même plainte. Donc en tout cas, ces mesures nous proviennent des sources du quotidien américain Washington Post, qui nous a confié aux journalistes du coup, c'est bien les 40 procureurs généraux d'État américains, mais aussi la FTC, donc la Commission fédérale américaine du commerce, qui a porté plainte. Donc c'est bien la même commission que pour Google, encore une fois. Et donc dans le viseur, en fait, c'est surtout les rachats que Facebook a fait, donc Instagram et WhatsApp, puisque Instagram et WhatsApp prenaient de plus en plus de place et donc étaient de plus en plus importants. Et donc pouvait devenir un danger potentiel pour la société de Mark Zuckerberg. Mais du coup, Facebook s'est dit, allez, on met l'alias de billets sur la table et on les achète pour avoir du coup moins de concurrence. Et donc c'est pour ça que cette plainte aussi est faite de la part, contre plutôt Facebook. Oula. Pardonnez-moi.
C'est ça que je trouve un peu bête aussi. En même temps, tu portes plainte en mode, bah, ils jouent de leur position pour. Pour acheter plein de trucs. Bah oui, mais si les autres ils voulaient pas se faire acheter, ils ont jusqu'à dire non, quoi. Mais bon, s'ils tombent, oui, tu places une liasse de billets, ils font ok.
Ouais, j'ai jamais compris le concept, genre de se plaindre de juste quelqu'un qui il réussit. Genre, oh non, on va rester bien notre position et on va surtout pas investir. Je pense que c'est meilleur projet pour une entreprise. Hein. Bon, je veux dire, c'est les plus.
Non, mais je pense que là, les États-Unis sont dans un dans une période où ils se disent non. On veut mettre en danger nos entreprises internationales, enfin, hein, bien évidemment.
Si la France avait des entreprises comme ça, je t'inquiète pas qu'elle le ferait aussi. Hein. Mais c'est juste que nous.
Bah, s'il y a moyen de récupérer les thunes.
Qu'on
n'en
a pas. Hein. Mais ouais.
Enfin bref, alors justement, revenons sur en France, du coup, sur Twitch, avec un petit concept qui est là depuis maintenant janvier 2020. Donc c'est les Nuits de la Culture. Je sais pas si vous connaissez les
non,
Nuits de la
tout.
Culture.
Non, du tout.
Alors, les Nuits de la Culture, c'est un concept créé par Étoile. Est-ce que vous connaissez le Twitcher, du coup, Étoile?
De nom,
ouais,
Étoile.
Je crois avoir déjà entendu son nom.
Étoile. Et donc, en gros, Étoile stream, fait des Nuits de la Culture par semaine, une nuit par culture, enfin, une nuit par semaine, pardon. Donc, le principe est à la fois, du coup, inattendu et très efficace, puisque, en fait, le jeune... homme se lance dans un épisode de questions pour un champion diffusé sur France 3 et tente de répondre aux questions de l'émission. Donc comme je vous l'ai dit, lancé en 2019, ces Nuits de la Culture qui durent entre 2 et 4 heures ont vu leur audience exploser pendant le confinement. Étoile est désormais suivie par 240 000 personnes sur Twitch contre 80 000 en janvier.
Ouais, pas mal.
Et donc ce succès a attiré l'attention de Samuel Etienne, donc le présentateur de Questions pour un champion, au point qu'il participe désormais chaque mois à une Nuit de la Culture. Maintenant, bah, d'ailleurs... même pour le The Event, il a fait une Nuit de la Culture spécifique avec Samuel Etienne.
Ah,
Etienne,
bah c'est pour ça qu'il était là.
The Event. C'est pour ça D'accord. qu'il était là. Et donc, je vous parle de ça parce que du coup, maintenant, il y a aussi un streamer qui se nomme Rivenzi. Donc, je sais pas si vous connaissez.
Si, moi, ouais.
Qui lui est un grand fan du jeu télévisé La Carte au Trésor. Et du coup, Samuel Etienne a entendu que Rivenzi faisait aussi des lives sur La Carte au Trésor. Et donc. Samuel Etienne, connaissant bien le milieu de la télévision publique, donc tout ce qui est France 2, France 3, etc., a proposé tout simplement au présentateur Cyril Ferraud d'aller sur la chaîne Twitch un soir du coup de Rivenzi pour justement faire ce live avec le présentateur, hein, comme pouvait faire Étoile avec Samuel Etienne. Et donc du coup c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est tout simplement Cyril Ferraud a fait un live avec Rivenzi sur La Carte au Trésor en ayant plusieurs invités, notamment le pilote, les pilotes des hélicos, certaines personnes des coulisses et tout. En fait, et du coup il nous raconte comment sont choisis les lieux de tournage, les régions plutôt, comment sont tournées les émissions, etc. Et puis en gros, voilà, il nous explique un peu tout, comme pouvait faire Samuel Etienne pour nous dire qu'est-ce qui se passe sur Question pour un champion. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que des fois, Samuel Etienne fait des petites références à Étoile lors de l'émission Question pour un champion. Donc, c'est marrant. Et je trouve ça bien que, tu vois, les petits présentateurs... les présentateurs de la télévision française s'intéressent un peu à ce milieu-là, tu vois. Maintenant, on peut voir notamment que Cyril Ferraud et Samuel Etienne, par exemple, se sont mis à Twitter. Depuis ces lives-là, ils ont installé Twitter. Ils font des petits tweets de temps en temps. Donc,
et
c'est assez drôle.
Ah, puis c'est vraiment sympa.
Et donc,
en plus, sur ce sujet...
Il s'intéresse de
sur
plus
ce sujet,
en plus
j'ai
Twitch,
entendu aussi
cool.
une anecdote qui montre aussi, c'est Samuel Etienne du coup, je sais plus à qui il répondait sur une question, et il disait même qu'il voulait porter le t-shirt du The Event lors d'une émission du coup de Question pour un champion, mais que du coup la chaîne avait refusé parce qu'elle considérait que c'était une marque en fait sur le t-shirt et sur la télé publique, il n'y a pas le droit. Mais Jean, il était quand même allé jusqu'à l'idée, jusqu'au projet de mettre un t-shirt du The Event durant l'émission.
Ouais, c'est sympa ça.
Non, mais en plus, Samuel Etienne, il a l'air d'être vraiment sympa. Surtout qu'il a fait aussi un live Twitch avec Ponce. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Ponce. Mais du coup, en gros, Ponce, plusieurs fois dans le mois ou une fois par mois, il va au restaurant avec des invités spécifiques, en fait. Et pendant 3 heures, voire plus... Et en fait, ils discutent de la carrière, de ce qu'on peut penser, etc. Et du coup, il a fait un live justement.
Je me demande si c'était pas un extrait de ce live-là.
Avec Samuel Etienne.
L'anecdote dont je vous parle.
Et du coup, peut-être, je pense, peut-être. Et du coup, c'est assez cool. En vrai, t'apprends plein de choses sur ces personnalités-là. Donc voilà, ça c'était mes petites actus, hein, mes petites actus d'internet pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir certaines choses et que ça vous a plu, bien évidemment. Et du coup, on va passer tout de suite à la session musique, hein, avec Lanterne de Leigh Gordon et Tell Me Why de Supermud. Et moi, je vous dis bonne écoute à tous et on se retrouve juste après. Et nous sommes de retour sur Pulp, votre émission de pop culture, toujours accompagnée de mes acolytes. Nous avons parlé juste avant de Il s'est passé quoi, donc des petites actus sur internet. Et du coup, nous allons passer tout de suite à la chronique manga animé, présentée par Justin et Titouan. Je vous laisse la parole juste après le générique. C'est parti.
Et c'est parti pour manga animé, donc avec aujourd'hui Titouan qui va nous parler d'un animé donc qu'il a vu, donc à savoir ReZero. Et ensuite il nous parlera d'un animé qu'il est en train de regarder, donc The Irregular at Magic High School. Pour finir, je vous parlerai de la sortie tant attendue de la saison finale de l'Attaque des Titans. Titouan, à toi l'honneur de commencer.
Eh bien merci pour cette présentation Justin. Alors oui, comme tu viens de le dire, je vais vous parler d'abord de ReZero. Alors ReZero c'est quoi? Alors c'est le nom... C'est non raccourci, hein, parce que le nom complet est un peu long et imprononçable. Du coup, je me suis permis de raccourcir le nom. De toute façon, oui, vous trouverez un deux petits points zéro. C'est pas non plus trop compliqué. C'est un light novel décrit par Tapei Nakatsuki et qui a été adapté en animé en 2016. Hein. Faut savoir que la dernière saison, du coup, la saison 2, elle est sortie en 2020. Du coup, ça reste quand même un truc que j'ai vu assez récemment. Et on attend, on espère une saison 3 en 2021-2022. Du coup, on peut presque dire qu'il est en cours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un animé fantasy et isekai. Alors, tout le monde sait ce que c'est isekai ici?
Pas du tout. Moi oui, mais non. Bon, je te laisse expliquer ce que
bah,
c'est.
Bah, isekai, alors c'est un mot japonais, hein, je pourrais pas vous le traduire littéralement. Mais dans le concept, c'est... c'est un personnage du coup qui vient de notre réalité, j'ai envie de dire, de notre temporalité, qui est projeté, non d'ailleurs pas forcément de notre temporalité, mais qui est projeté dans un monde inconnu. Alors ce monde inconnu, ça peut être un monde complètement différent, comme c'est le cas ici, mais ça peut être aussi une autre époque ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est un personnage qui est déplacé de son monde d'origine à un monde qui lui est complètement inconnu. Alors ici on parle de Subaru Natsuki. Alors pour vous dire que cet animé je l'ai aimé, j'ai même pas eu besoin de retourner sur Wikipédia pour me souvenir du nom complet de... Bon, vous me direz il est pas très compliqué mais je pense que c'est souvenu par cœur. Il possède qui du coup se fait entre guillemets isekai hein, et d'un coup comme ça en pleine rue et se retrouve dans un monde du coup fantasy où règne magie, homme lézard, homme loup, plein de créatures quoi, des elfes pas, aussi, quoi, des demi-elfes, des sorcières, bon, tout ce qu'on connaît un peu, hein, ce qui est le plus simple. Mais il est transporté et on lui donne un pouvoir. Alors, je vais pas vous dire qui parce qu'on le saura plus tard. Hein, bah pour ceux qui vont le regarder. On lui donne un pouvoir qui l'appelle, lui, la mort réversible. Alors moi, je trouve ça très moche, hein, mais comme nom, la mort réversible. Mais en fait, ça consiste grosso modo en checkpoint, hein, vraiment, c'est au cours de c'est ça, hein, au cours de son périple, en fait, il y a des moments où il y a une sauvegarde qui va se faire, et dès qu'il va mourir ensuite, il va revenir à cette sauvegarde. Du coup, c'est plutôt pratique comme, comme pouvoir. Enfin, le défaut, c'est quand même que du coup, bah, faut mourir, hein, et,
oui.
Et il ressent tout ce qui est douleur, etc. Hein, il la ressent, la mort, hein, du coup, c'est un pouvoir qui est cool, mais pas trop non plus. Je sais pas si vous, moi, perso, je pense pas que c'est le premier pouvoir qui me viendrait à l'esprit. C'est toujours, je sais pas si j'apprécierais l'avoir, ce pouvoir. Je sais pas pour vous.
Bah, le problème, c'est que... imaginons qu'il y a la sauvegarde qui se fait... Tu meurs pas et du coup tu fais un truc cool dans ta vie, je sais pas, tu te maries ou je ne sais quoi. Puis d'un coup, t'as un accident et pouf, tu reviens à zéro.
Hey.
Ça peut être,
voilà, ça peut être
frustrant, quoi.
Vachement frustrant et on verra ça dans l'animé d'ailleurs. Et mais d'ailleurs l'animé franchement il est super, je vous le conseille parce que moi déjà il m'a marqué, il est très beau. Déjà premièrement on arrive, je trouve qu'il est beau, les animations sont vraiment sont bonnes. Comment dire, elles essayent pas de faire non plus des choses énormes comme on pourrait voir dans un SAO, etc. Elles essaient pas de révolutionner le genre, mais ils sont sur leur base, c'est beau, c'est fluide, c'est parfait. Et alors, comme je viens de vous le dire, le concept c'est une mort réversible, du coup ça veut dire que dès qu'il va mourir, il va revenir en arrière. Alors là, on pourrait peut-être, moi j'avais un peu peur de ça au début. je me dis ça va vite devenir répétitif parce que ça veut dire qu'il va mourir en boucle, etc. Genre, bah, il y a le. Non, mais c'est vrai. Il y a le concept de boucle, quoi. Et non, en fait, ils arrivent pour le meilleur et pour le pire, hein, du point de vue du héros, à se réinventer. Vraiment, chaque mort est toujours plus exquise que la précédente. c'est vraiment un truc de fou. Je le plains, franchement, après deux saisons, le pauvre, il n'en peut plus. Hein. Aussi, en parlant de ça, l'anime, explore un côté que j'aime beaucoup et l'explore vraiment à fond. C'est la folie du coup du personnage qui va se développer, qui va grandir au fil des traumatismes qu'il va subir. Et vraiment, c'est très intéressant parce que malgré que ce soit un concept assez étroit finalement, et ben ça arrive à se renouveler et tout. C'est vraiment très agréable à regarder, je vous le conseille. Du coup, il y a déjà deux saisons qui sont sorties. Que vous pouvez regarder sur Wakanim ou des trucs comme ça, quoi, des sites légales et ça se trouve aussi
moins,
sur d'autres sites, hein, voilà. Et non, vraiment, je vous le conseille, vraiment beau, intéressant, ça suit vite les épisodes, tu les manges et en plus vous avez déjà deux saisons à vous mettre sous la dent et l'année prochaine, Inch'Allah, il y en aura une troisième.
On y croit.
Ensuite, je vais vous parler du coup de Irregular at Magic School. Alors, pareil, hein, c'est un novel écrit par Tsutomu Sato. Hein, faut pas se gourer, la prononciation est sûrement dégueulasse. Mais... Alors, en japonais, c'est Maoka Koko no Retosei. Du coup, c'est l'anime, la première diffusion de l'anime 2013, hein, toujours en cours. Du coup, la deuxième saison est sortie il y a 2-3 mois, a commencé à sortir et elle est toujours en cours. Elle arrive à sa fin. Là.
D'accord.
Première saison, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu mon péché mignon, les héros vraiment OP qui n'en ont rien à foutre des autres. Ça, j'aime bien le concept. Franchement, j'adore ces personnages. C'est péché mignon parce que c'est pas les plus intéressants, hein, d'un point de vue objectif. Mais vraiment, j'aime beaucoup. La première saison était vraiment agréable dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de rebondissements, il y avait des enjeux assez grands, je trouve. T'étais vraiment mis dedans, c'était beau, etc. Alors que, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, bien sûr, alors le principe de l'anime, c'est un étudiant dans une école de magie. Alors en fait, dans ce monde-là, c'est un monde dans un futur proche où la magie. C'est un pouvoir que chacun a évidemment de naissance, hein, plus ou moins. Tu peux ne pas avoir de pouvoir magique, un peu, beaucoup, passionnément, etc. Mais en fait, ce qui différencie un peu ce monde-là des autres mondes de magie, c'est que c'est pas tu nais et hop, tu peux lancer un sort Patronus, quoi. Non. En fait, c'est que l'humain a développé une technologie qui permet d'exploiter ce pouvoir que finalement, même nous, c'est comme si nous aujourd'hui on avait de la magie mais qu'on savait pas l'exploiter. Et que là, dans 100 ans, en fait, on trouvait une technologie qui nous permettrait de jeter des sorts.
D'accord.
Et du coup, c'est un concept original. Du coup, on parle beaucoup de technologie de magie, c'est pas forcément très digeste, mais en soi, la saison 1 nous le fait comprendre assez vite. Hein, C'est vraiment très, très agréable parce que le personnage principal a des talents d'ingénieur extraordinaires. Et du coup, il nous explique ça et c'est vraiment très agréable à écouter. Ça se suit, ça t'es dedans, quoi. Et là, c'est la saison 2 que je suis en train de regarder. Et la saison 2, franchement, j'ai du mal à la suivre. J'ai vraiment du mal. Je le fais parce que je me suis dit que j'allais faire une chronique là-dessus. Sinon, je l'aurais lâché. Mais non, c'est pas ouf parce que déjà. Alors que ça prenait une direction intéressante sur la saison 1, on perd complètement tous les enjeux, je trouve. Tu t'arrives pas à t'intéresser à ce qui est en train de se passer.
C'est l'intrigue qui chute un peu par rapport à la saison 1.
C'est un peu mou.
Bah ouais, là, c'est même pas que les enjeux sont d'un point de vue objectif plus faible en soi. C'est juste que la narration est, je trouve, bien plus mauvaise. Genre, tu es beaucoup moins dedans, les nouveaux personnages qui sont introduits sont beaucoup moins intéressants. Parfois, t'as juste envie de leur foutre des claques, genre ils servent à rien. Et surtout, ils avaient un concept de base du coup de technologie magique assez compliqué, mais qu'ils ont réussi à t'inculquer, tu vois. Et là, ils ont voulu partir sur un nouveau concept, genre partir encore plus loin avec des démons, etc. Mais déjà, je trouve que ça dessert le côté technologique. Et là, qu'on part vraiment sur magie,
oui.
Et du coup, je trouve que le côté technologique, en fait, il sert plus à rien parce que d'apprendre que des personnages arrivent à utiliser la magie sans les éléments. Du coup, je trouve que ça dessert ça. Et surtout, c'est très compliqué. Genre, ils ont compliqué ça à un point. Alors, vous, imaginez, vous avez un univers. Mm-hmm. Et il y a quelque chose d'extrêmement compliqué. Sauf que tous vos personnages sont des lycéens. Alors que là, on parle de physique genre Einstein.
Ouais.
Comment vous faites Comment vous faites pour que vos lycéens puissent, dans l'animé, parler de ça alors que c'est des putains de lycéens?
Je leur mets une puce dans le cerveau.
Ouais. Non, mais bref, c'est pas très faisable. Et du coup, la solution qu'ils ont trouvée et que je trouve un peu malhonnête, genre vraiment, je trouve ça incroyable, c'est qu'ils ont fait en sorte que parmi tous les personnages de la série, il y en a deux ou trois qui comprennent ce qui est en train de se passer, le concept.
Les autres non.
Qui en discutent, qui l'évoquent, ouais. Qui en parlent, tu vois. Tous les autres personnages du coup autour les écoutent, interagissent dans cette discussion, genre apportent des éléments. Comment, etc. Et à la fin de la discussion, tous les personnages, à part ces trois élus, se regardent et puis disent: mais en fait, t'as compris ce qu'il a dit? Oh non, on a rien compris. Ça fait 2 heures qu'on interagit avec lui et on a rien compris. Et je trouve ça, mais incroyable. Et genre, je me dis, bon, ah, c'est une discussion. Mais non, là, je suis au 8ème épisode. C'est presque à chaque épisode qu'ils expliquent quelque chose, qui est à une ou deux personnes qui comprennent dans la discussion, et que tout le groupe autour fait, ils se regardent vraiment littéralement dans le blanc des yeux en mode on comprend rien à ce qu'ils disent alors qu'ils interagissent, quoi. Mais c'est incroyable. Mais genre, je trouve que ça sort du truc, genre, mais déjà que toi tu comprends pas, tu te dis bah je suis con, et t'as les autres personnages qui disent non nous aussi on comprend pas, c'est l'auteur, et en fait il part dans un truc et j'ai l'impression qu'il s'est lui-même rendu compte que c'était n'importe quoi, que ça ne voulait rien dire, et du coup qu'il a fait dire aux personnages genre qui sont à peu près dans notre quotient intellectuel, hein, finalement, bah non, donc vous inquiétez pas, on comprend rien, c'est normal que vous compreniez rien. Et du coup je trouve ça un peu nul de nous dire de reposer l'intrigue sur quelque chose qu'on n'est pas censé comprendre. Bref, ouais, c'est une deuxième saison que je conseille beaucoup moins. Je vous conseille d'aller voir la première. Mais si vous voulez vous arrêter à la première, vous le faites. Après, par curiosité, la deuxième peut toujours intéresser certaines personnes. Et puis c'est con quand même de s'arrêter en plein milieu de l'histoire. Mais si vous regardez la première, vous attendez pas un chef-d'œuvre pour la seconde. Hein. Et c'est sur ceci que je te laisse la parole, Justin, pour les infos. Sauf si vous avez un petit commentaire à faire.
Non, moi ça va personnellement, du coup je sais que la saison 2 a pas l'air d'être ouf, quoi. Merci pour l'info.
En tout cas, tu as l'air passionné par ce que je dis et ça fait plaisir.
Non, j'avoue que ce manga là que tu as parlé, le premier était plus intéressant, je trouve.
Ah bah forcément, oui, c'est... Voilà, c'est le principe. Le ouais, aussi, il... hein, mais, je sais pas, franchement les deux niveaux popularité, je crois que ça se joue. Hein.
Ah, je sais pas.
Ah, ouais, ah, Irrégulier, tu le vois souvent. Franchement, c'est les deux animés sont des animés qui ont été très populaires. Hein. Ah, en fait, ils sont dans un entre-deux. C'est pas genre Demon Slayer,
pas
tu vois.
Populaire.
Ouais, mais ils sont, c'est pas mal.
Ils sont populaires.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, sinon, du coup, moi, pour les news, donc y a la fameuse saison 4, donc soit la saison finale de l'Attaque des Titans qui a enfin débuté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Attaque des Titans, donc je vais expliquer vite fait ce que c'est. Donc c'est un manga à la base qui a eu également une adaptation en animé, et l'histoire tourne autour du personnage d'Eren Yeager dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques mangeuses d'hommes, les titans. Et donc le récit va raconter le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire tout en éclaircissant les mystères liés à la présence de titans dans le monde. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que cette œuvre, c'est un énorme succès à l'échelle mondiale, hein. Je pense que vous connaissez très bien aussi cette œuvre, les gars.
Mm-hmm. Bah ouais, ouais, c'est le cas. Je pense qu'on l'a tous regardé ici.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un gros, gros, gros phénomène qui a même fait regarder à beaucoup de monde l'animation japonaise, hein, mine de rien. Et donc, c'est tellement célèbre que lors de la sortie du premier épisode sur Wakanim, la plateforme donc, de VOD était inaccessible car beaucoup trop de monde essayait de s'y connecter en même temps. Donc, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont râlé sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup râlé vis-à-vis de la plateforme, alors qu'elle y était pour rien, quoi. Il y avait juste beaucoup trop de personnes à vouloir se connecter en même temps pour les serveurs de la plateforme.
Ouais. Ils ont juste pété la
plateforme. Ils ont complètement cassé la plateforme.
Mais pour dire, je suis en train de me dire aussi, c'est tellement populaire que Il a même eu son doublage français sur D17, hein. N'empêche cet animé, hein. Alors que pourtant c'était une époque assez
entre... ça, tu vois.
Mais oui, mais pour... en plus c'est d'autant plus, je trouve, impressionnant que c'était vraiment un moment où les animés ça perdait, genre il y avait plus personne qui regardait ça, oui, grosso modo. Et du coup, et il est un peu sorti au milieu du désert, je trouve, et sur, ils l'ont passé sur D17. Alors je l'ai pas regardé parce que je déteste les VO, les voix françaises. Je m'excuse auprès des doubleurs, mais je ne supporte pas les animés en voix française.
Ouais, je trouve que c'est pas pire que les voix anglaises, honnêtement, perso. Mais...
Ouais, bah, enfin ça, c'est parce qu'on est français et qu'on comprend.
Ouais.
Mais sinon, je pense que les deux sont pas ouf.
Non mais c'est pas faux, il est passé sur D17, mais il est passé longtemps sur D17 en même temps.
Bah parce
que... Enfin c'est que la première saison.
Bah, la première saison fait 24 épisodes.
Ouais, ouais, non mais je veux dire, il est passé longtemps, en 2017 il passait encore sur D17, tard la nuit.
Bah oui, parce que genre ils font deux anciens épisodes pour un nouveau épisode, genre forcément.
Mais c'est ça pour tout, ça. Par
genre,
exemple,
il leur faut 24 semaines pour le dérouler, son
ouais, bah oui.
Non mais ouais, c'est vrai que c'était un gros succès. Mais perso, moi j'ai quand même réussi à le regarder le soir. Et franchement, tous ceux qui se demandent si ça vaut le coup, bah c'est super. Hein, vraiment, allez le regarder parce que moi le premier épisode, je l'ai kiffé là. Moi je là ce week-end, là on est jeudi, dimanche le deuxième. Vous inquiétez pas que je serai sur les starting blocks. Hein.
Faut encore regarder la saison 4.
Bon bah c'est sur cette petite pub du coup de la part de Tito qu'on va finir cette chronique manga animée.
Ok, bah merci les gars du coup de nous avoir présenté cette chronique manga animée. Bah du coup voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu, chers auditeurs, auditrices, se dire ah ce manga il me plaît, je vais aller le regarder. Et donc bah du coup maintenant on va passer tout de suite à la session musique, hein, comme d'hab. Donc c'est parti avec Guren no Yumiya et l'opening de ReZero Redo. Et moi du coup je vous dis bonne écoute et puis on se retrouve juste après. Oh. Et nous voilà de retour sur Pulp, votre émission de pop culture. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, hein. Mais avant, comme d'habitude, nous allons parler des sorties de films sur les plateformes de streaming, ainsi que des petites actualités de Rennes. Alors, donc les gars, pour les sorties de films, je vais vous présenter du coup plusieurs choses. Là, j'ai des choses qui sont assez cool. Alors, pour commencer avec Amazon Prime, eh bien, c'est la sortie de Logan. Donc Logan qui est un film quand même assez connu si on regarde tout ce qui est X-Men, Marvel, etc. Hein, donc en gros le synopsis c'est dans un futur proche un certain Logan épuisé de fatigue s'occupe d'un professeur X souffrant dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s'épuiser lorsqu'une jeune mutante, traquée par de sombres individus, va se retrouver soudainement face à lui. Donc bien évidemment, on parle de Wolverine. C'est le dernier volet hein, de Wolverine, tout simplement. Je vous laisse découvrir la fin, même si beaucoup de personnes la connaissent en général.
Moi, je n'ai toujours pas vu, moi,
donc voilà.
J'ai le seum.
T'as toujours pas vu, il faut vraiment que tu le regardes.
J'avais voulu y aller.
La vidéo est vraiment super.
Ça m'avait un peu saoulé.
Je trouve que c'est limite un peu le même genre, comment dire, le même sorte de film que Joker pour DC. Genre c'est vraiment un côté bien plus sombre du personnage. Genre c'est assez
clairement
intéressant.
Ouais. Ouais. Et puis il est vraiment cool. Et puis la BO est magnifique. BO
ouais,
est magnifique.
Le rapprochement est peut-être un peu osé, mais c'est. Moi je comparerais ça un peu comme ça.
Alors ensuite pour Disney+. Là, je vais vous parler, les gars, d'un truc magnifique. Ok. Ça, c'est quelque chose de. Voilà, tu dans le top tier, là, hein, clairement. C'est la sortie de Cars 3 sur Disney+. Donc, le synopsis, bien évidemment, de Cars 3. Donc, le célèbre Flash McQueen doit malheureusement abandonner les circuits après un très grave accident. Et alors qu'une nouvelle génération de voitures high-tech. Menée par l'arrogant Rookie Jackson Storm, l'a mis sur la touche. Pour ne pas finir comme son mentor Doc Hudson, le numéro 95 entreprend donc de retrouver confiance en lui, aidé par une jeune entraîneuse enthousiaste et quelque peu maladroite, Cruz Ramirez et le vieux mentor de son défunt mentor Smokey. Donc voilà, c'est Cars 3 qui est disponible sur Disney+. Je vous conseille tout de suite d'aller le voir parce que c'est un très bon film d'animation, comme d'ailleurs tous les films.
Mais les Cars sont très sympas, mais j'ai pas vu. Non, en vrai, ouais, tu fais. Ils sont vraiment très sympas, les Cars. J'ai pas vu
ah,
le 3,
non,
mais
non,
le 1 et
les Cars sont vraiment cool.
Bah, le 3 ça va, le 1 il est bien, le 2 j'aimerais plutôt l'oublier.
Bon, le 2 il est sympa.
Je suis désolé, cool. Le truc avec Paris, les Japonais, les espions là, non mais
c'est marrant,
c'est quoi, genre.
Mais c'est vachement drôle.
La Ferrari, elle a aucune dégaine, genre, c'est pas possible.
Mais le Ferrari, c'est une Formule 1.
Ce film.
Ah, c'est une Formule 1 Ferrari.
Oui, mais c'est une Ferrari. Voilà, la Formule 1, elle a aucune dégaine. Je vous
mais les Formule 1 n'ont aucune dégaine de base. Mais non, mais Cars 3, c'est drôle, non. C'est les petits films d'animation de notre enfance. Ouais. Enfin bah, bref, là je vous parlais aussi d'un autre film d'animation qui bien évidemment n'est pas pour les enfants. Je vous parle de la sortie de la partie 2 de la saison 4 de Rick et Morty sur Netflix, qui est disponible depuis cette semaine. Donc la série suit les mésaventures de Rick Sanchez, un scientifique cynique et fantasque, et son petit-fils Morty Smith, perturbé et facilement influençable, qui partage leur temps entre une vie domestique et des aventures interdimensionnelles. Et donc c'est toujours un plaisir de regarder de toute façon Rick et Morty, hein. J'attendais la fin de la saison 4 avec impatience, et elle est vraiment cool, hein, surtout qu'on peut retrouver bien évidemment des voix françaises de qualité. Donc je vous conseille bien évidemment d'aller la voir, parce que c'est toujours cool à regarder Rick et Morty. En plus c'est rapide à regarder malheureusement, mais c'est toujours cool. Et puis du coup on va passer à la plateforme streaming, hein, bien évidemment française, Salto. Et donc pour Salto je vais vous parler d'un film qui s'appelle Temple. Donc ce film c'est une adaptation de la série norvégienne Valkyrienne, qui suit Daniel Milton, un brillant chirurgien qui, après avoir installé une clinique dans une partie abandonnée du métro londonien près de la station Temple, logique, se retrouve confronté à de multiples personnes en situation de détresse, et du coup on va suivre tout ce parcours et toutes ces dettes qu'il va donner et pourquoi est-ce qu'il va faire ça, avec son histoire aussi personnelle. Donc c'est un film que je vous conseille d'aller voir, si bien évidemment vous avez le temps, faut pas l'oublier. Et puis du coup maintenant on va passer aux petites actus de Rennes. Alors petite actualité positive, hein, puisque Rennes est en tête, mais est en tête de quoi?
Bonne question.
Eh bien Rennes est considérée comme la ville la plus attractive de France, tout simplement, selon une nouvelle étude réalisée depuis 3 ans par la plateforme de recrutement Hello Work, et publiée du coup lundi 7. La capitale bretonne reste en tête des 20 métropoles françaises qui attirent le plus en France, selon un panel d'actifs vivant dans ces métropoles. Il s'agit de données résidents, c'est-à-dire qu'elles témoignent de la perception de ces communes par les habitants eux-mêmes. Donc en gros, c'est les habitants qui ont dit s'ils vivaient bien ou pas dans cette ville. Et du coup ça a pu définir l'attractivité tout simplement sur l'offre culturelle, le marché de l'emploi, le dynamisme économique, les infrastructures, etc., la qualité de vie, etc. Et du coup c'est Rennes qui obtient la meilleure moyenne devant Nantes, Strasbourg, Lyon et Brest.
Il y a que même Brest dans le tas.
Brest, il paraît que
Brest elle est attractive,
c'est sympa. Ouais, il paraît que j'ai eu des échos, il paraît que Brest,
beaucoup
c'est
de
sympa.
Gens ouais, beaucoup de gens, j'ai eu aussi des échos m'ont dit ça. Mais du coup Rennes est quand même dans le top, puisque en Europe, dans le top 10 des villes où il fait bon vivre, eh bien Rennes y est. En octobre dernier, la Commission européenne publiait une étude similaire que celle que je viens de vous expliquer sur les villes par contre d'Europe où il fait bon vivre, et là encore, selon le ressenti des habitants de ces villes, Rennes arrivait en 8ème position sur 83 villes européennes. Donc c'est plutôt pas mal, hein.
On a grave de la chance en fait.
C'est pas mal.
Ouais, je trouve ça limite un peu triste, parce qu'en soi, fait bon vivre. Non, mais c'est vrai, il fait bon vivre. C'est la 8ème ville d'Europe où il fait bon vivre. Reste que moi, je me balade pas le soir après 22h, tu vois. Genre, je trouve ça un peu
ouais, ça, de toute façon, tu peux dire ça en fait dans toutes les villes en soi. Hein. Dans toutes les grandes villes, moi, je me balade pas après 22h. Hein. Dans toutes les métropoles, c'est dangereux. Hein.
Bah ouais, du coup. Ouais, c'est vrai que ça. Mais je trouve que Rennes, ça dépend vachement du quartier où t'es.
Il y a des quartiers pour. C'est comme Paris, c'est comme Strasbourg, Lyon. T'as des quartiers qui sont plus sûrs que d'autres, quoi.
Ouais, mais là, c'est vraiment, je trouve, marqué. Genre, c'est vraiment d'une rue à l'autre. Bah, après, c'est peut-être la même chose dans les autres. Moi, c'est la seule métropole que je connais, du coup, bon.
Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même cool de savoir que Rennes est dans numéro 1 en France et numéro 8 en Europe.
Ouais, c'est plutôt sympa.
Du coup voilà, c'était les actus de Rennes, hein, tout simplement, la petite note positive de fin d'émission. Et du coup pour finir cette émission en beauté, on va partir sur les deux dernières musiques qui sont Rye Hit de Regard et Moderator. Et donc du coup moi je vous dis à la semaine prochaine les gars, à la semaine prochaine tout le monde. Et du coup passez un bon week-end et une bonne semaine du coup. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut.
Merci, à la prochaine.
Ouais, à bientôt, la semaine pro. We'll be right back.
Mainly because it came off on the glass. The dizzy place your favorite soul.